Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous écoute. Et pour cette nouvelle émission spéciale entrepreneur, nous avons avec nous Marine Wächter de la Chambre de consommation d'Alsace, juriste. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Knöll, expert sur la question de l'entrepreneuriat, également juriste. Bonjour Michel.
Bonjour.
Voilà, nous allons enchaîner, commencer plutôt avec un témoignage, celui d'Antoine. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez souhaité témoigner de votre situation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Excusez-moi, je vous entends pas bien parce que je suis dans la voiture et qui plus est, j'ai une voix un peu enrouée. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, oui. Antoine, oui. Michel Knöll, oui. on vous entend bien, hein ? Donc, voilà, c'est pour voir ensemble un peu votre dossier, dont nous nous occupons depuis maintenant 3 ans. Et vous avez beaucoup souffert car vous aviez créé une SARL qui, en finale, a plongé et vous vous étiez porté caution, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, de vos engagements et vous avez encore pris des engagements privés. Mais toujours est-il que les engagements liés à votre société liquidée vous ont coupé les ponts pour le règlement de surendettement tel que le conçoit les gens qui sont dans la théorie des règlements et pas dans la pratique vécue. Vous avez vécu oui. La pratique dans vos tripes. Vous pouvez en témoigner. Et vous êtes effectivement aujourd'hui, vous vous êtes mis à votre compte parce qu'il faut bien vivre, puisque quand on a eu certaines responsabilités, on n'a pas droit au chômage, à rien du tout. On peut juste attendre le RSA ou aller sous les ponts. Vous êtes un homme courageux, vous êtes battu, bravo Antoine. Et donc, en finale, donc, comme vous avez toujours ces poursuites, effectivement, de vos engagements pour cette SARL liquidée, eh bien, sans doute, on sera amené à vous liquider. Et après, vous avez sans doute une solution pour rebondir, car vous êtes un homme cinquantaine passé, mais quel mérite du combat. Donc, vous êtes toujours dans cette optique-là de faire un nettoyage pour enfin pouvoir vivre en paix comme tout le monde, oui ?
Absolument, oui, puisque j'ai des projets et je souhaiterais effectivement réaliser ces projets. Bon, j'ai 56 ans, je pense que j'ai encore pas mal d'années devant moi pour réaliser effectivement ces projets. Et comme vous l'avez très justement résumé, suite à un licenciement économique et des recherches d'emploi infructueuses, j'ai donc décidé de créer mon activité. Et effectivement, je pense que j'ai fait une grosse bêtise en créant cette SARL où j'ai démarré tout seul avec quasiment pas de moyens, pas de personnel et je me suis très vite retrouvé dans des surcharges de travail administratif, tout cela au détriment d'un travail commercial et par conséquent au bout d'un certain nombre d'années, eh bien je n'ai pas pu continuer cette activité et qui plus est, pour maintenir cette activité, je me suis endetté à titre personnel. Et donc, à un moment donné, bah, il a fallu tout arrêter. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc saisi le tribunal de commerce et qui a prononcé la liquidation de l'entreprise. Néanmoins, je me suis retrouvé avec une série de prêts, de créanciers.
Et de cautions.
Et de caution et qui me poursuivent toujours à ce jour. Alors, je pense être quelqu'un d'honnête et sincère, qui n'a jamais eu de problème avant cette période. J'ai toujours respecté mes engagements. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de redresser, de revenir un peu à la surface, en continuant la même activité, mais sous une autre forme de travailleur indépendant. Tout cela pour essayer de générer... on va dire, une ressource qui me permette de continuer à payer tant bien que mal quelques créanciers.
Mais, on va résumer. On vous a très bien compris, monsieur Antoine, vous avez le mérite d'avoir jamais été un homme à la charge de la société. Je vous félicite pour ce grand courage, parce qu'il n'est pas courant de nos jours, monsieur Antoine. Hein. Et donc, à ce titre, vous recevrez de ma part la Légion d'honneur, vous savez. Mais je n'en distribue pas aussi facilement que la République le fait pour les gens méritants. Vous avez donc eu ce grand mérite et vous battez, on se connaît maintenant depuis 5 ans. Et donc, je sais combien vous avez battu, combien vous avez dû avaler de couleuvres, combien vous avez souffert, et quasiment tout seul. Mais nous arriverons à la fin, Monsieur Antoine. Et donc, on va se voir sans doute prochainement pour voir les choses d'une manière définitive, afin que vous puissiez aller vers cette liberté à laquelle vous aspirez légitimement. Et il me semble que vous avez largement mérité. On va traduire tout cela, n'est-ce pas, en termes de procédure, afin que votre dossier puisse être digéré. Car il faut reconnaître une fois de plus, pour les chefs d'entreprise qui ont failli, on ne fait rien du tout, on les laisse choir. À la limite, s'ils sont sous les ponts, ils peuvent demander le RSA. On les aime pas non plus du côté des assistantes sociales parce qu'elles sont pas formées pour comprendre l'entrepreneur qui a chuté. Je vois seulement aujourd'hui, et ce qui n'était pas au départ, que même les petits chefs d'entreprise qui doivent payer le RSI, et aussi les gérants de SARL majoritaires, payent le RSI, qui est le régime donc social de l'indépendant, et le gérant majoritaire le doit aussi. Et puis, si la société coule, eh bien, il le doit à titre personnel, même s'il n'a pas d'autre engagement. Et non seulement lui, mais aussi sa chère et tendre moitié, qui souvent, dans ces cas-là, prend ses valises et s'en va. Vous voyez, donc, c'est des choses honteuses, et on n'a jamais clarifié le statut de l'entrepreneur, alors qu'on s'attaque même au statut de l'auto-entrepreneur, avant d'avoir vraiment réfléchi, car les gens qui nous gouvernent n'ont jamais eu des couilles pour entreprendre eux-mêmes quelque chose avec peu de moyens. Merci, Monsieur Antoine, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir et bonne journée, à bientôt.
Merci.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous écoutez Radio Crésus et nous enchaînons avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, vous avez souhaité témoigner. Nous avons avec nous Michel Kneul et Marilyn Wächter, juriste. Donc vous pouvez vous exprimer et je pense que l'interview sera menée avec Michel Kneul.
D'accord.
Oui, bonjour Elisabeth, vous allez bien?
Bonjour.
Voilà.
Ça peut aller.
Oui, on s'est déjà vu. Et ma foi, vous êtes venu quand je vous ai rencontré relativement effondré, car c'est tout un morceau de vie qui s'effondre. Et vous n'avez plus trouvé une base de support pour dire, voilà, j'ai une fondation. Il n'y avait plus aucune fondation, et vous êtes une Elisabeth charmante, mais écroulée, alors qu'elle a derrière elle déjà une belle trace de carrière, de professionnalisme, qui par ailleurs est largement reconnue. Mais vous avez eu aussi le tort, mais il le faut souvent, de vous mettre à votre compte, parce que souvent on ne trouve pas d'emploi salarié. Et à mesure qu'on avance en âge, donc c'est encore plus difficile. Et en plus, vous êtes dans une activité intellectuelle, car vous avez fait des études supérieures et vous avez une grande expérience de l'accompagnement justement de personnes. Et donc, à ce titre-là, vous avez eu l'habitude de voir des gens que vous avez pu remettre en selle. Hein?
Oui, c'est ça, le paradoxe.
Le paradoxe, mais c'est très intéressant. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous aviez par fierté aussi attendu trop longtemps avant de vouloir envisager quelque chose, car vous avez sans doute aussi une grande fierté. Et là, vous étiez obligé, lorsqu'on s'est vu, de vous retourner un peu vers vous-même et de faire, disons, une sorte d'introversion pour y voir plus clair. Aujourd'hui, vous avez mis les lanternes dans vos cavernes, hein?
Oui.
Et donc, vous avez donc trouvé ce qu'il faut à peu près faire, hein?
Oui, heureusement, vous m'avez vraiment énormément aidé, parce que je n'avais pas les informations. Ouais. Quand on crée une entreprise, enfin là c'était en libéral, c'est assez facile. Franchement, c'était vraiment très facile, j'étais étonnée, c'était il y a 8 ans. Et là, je ne savais absolument pas. Mon expert comptable m'a parlé de faillite civile, je comprenais pas trop, il m'a pas trop expliqué, je trouve.
Ouais.
Et en fait, quand on m'a dirigé vers vous, vous m'avez écouté, j'ai beaucoup pleuré, j'avais très peur, mais vraiment, hein, c'était une peur au ventre. Hein.
Ouais.
Et vous m'avez donné beaucoup d'espoir, dans le sens où c'était l'espoir, c'est dans le sens les papiers qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait donner, comment ça allait se passer. dans le temps. Hein,
et aussi pour la survie.
Temps, ça allait durer.
Pour la survie, voilà. Puisque vous faites l'objet de saisies à la source de,
oui.
des éléments
oui.
que vous pouvez
en fait,
encore rentrer.
C'est pour ça que je pleurais. Hein. Oui.
Ouais, ouais.
Donc, il y a une huissier qui a fait une saisie directement à la source.
Ouais, ouais.
Ma seule source de revenus, donc c'était des honoraires que j'avais déjà envoyés au mois d'avril, qui traînaient. Je téléphone à mon financeur, et donc c'était une entreprise, et on m'a expliqué qu'il y a eu une saisie. Résultat, ouais. moi je suis seule avec mon fils de 10 ans, le loyer je pouvais pas le payer, ni le loyer professionnel, en fait je pouvais même pas travailler. Donc je l'ai appelée, elle me répondait pas, et en fait je n'ai absolument aucune ressource, alors que j'ai certains, j'en ai pas beaucoup, puisque j'ai une baisse d'activité, donc les honoraires que j'attendais ben sont bloqués. Voilà.
Voilà, quel bel apprentissage, hein, Elisabeth.
Ben, je pense pas.
Vous pensez
pas.
Maintenant, vous allez en sortir enrichi, vous verrez. Et plus tard, vous allez en rigoler, mais quel courage dont vous faites aussi état. Car vous êtes aussi la maman qui protège son enfant et qui ne peut pas pleurer devant lui, etc.
Non.
Donc,
non.
bravo. Et on se verra donc pour mettre les choses au point. Donc, l'expert comptable a un peu confondu aussi le cas d'un particulier. Et le cas de l'entreprise, donc il n'a pas ressorti le caractère libéral de votre activité, puisque vous êtes plutôt une personne en cessation de paiement et non en liquidation ou en faillite civile. Donc, mais ça, c'est des petits détails qui ne changent pas grand-chose, n'est-ce pas, à l'horizon de votre dossier. Votre horizon, c'est effectivement de déblayer, de retrouver le chemin sur lequel vous pouvez de nouveau rouler à votre convenance avec confiance. En sachant qu'une fois qu'on a les pieds dans l'entreprise, eh bien, on n'a pas grande protection, aucune.
Oui.
Aucune.
Ah ben non.
Aucune. Les banques, effectivement.
On n'a pas le droit d'être malade.
Les banques
se
retirent.
On n'a pas le droit d'être malade. Oui. On doit toujours être en forme.
La banque,
aller de l'avant. On vit au jour le jour.
Ouais.
On ne sait pas quel contrat on va avoir. Moi, j'ai peur. Là, j'ai plus de 50 ans, donc. Je me dis, mais mon Dieu, s'il m'arrive un accident, n'importe, je pourrais plus travailler. Je peux compter que sur moi-même. On est assez seul et on espère toujours, voilà. Et là, ça fait un an que ça va pas. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, faut y aller. Hein, j'osais pas. Je me disais, non, ça ira, puis ça ira, ça allait pas.
Vous
voilà,
voyez.
Donc là, j'ai des dettes qui s'accumulent.
Mais ça va se régler, Elisabeth. Donc, juste un peu pour les réflexions, et on en avait un peu parlé. Au fond, quand on est chef d'entreprise, en libéral ou commerçant, peu importe, on est quand même un être relativement isolé. Hein.
Oui, c'est ça, je me sentais vraiment isolé, absolument.
Donc,
absolument.
Et il n'y a pas d'assistante sociale formée pour cette frange de clientèle.
Je suis allée voir une assistante sociale parce que figurez-vous que je ne pouvais même plus payer mon loyer personnel avec mon fils, c'est quand même grave, puisque on m'a coupé, on ne m'a pas laissé un minimum pour vivre, comme pour un salarié, s'il est saisi, lui... La banque lui laisse un minimum qui est égal, je crois, au RSA, hein, 400 euros.
Ouais.
Mais moi, j'ai pas ça, par exemple.
Ouais, ouais.
Ça fait peur. Ça fait peur.
On n'aime pas les entreprises, vous savez, en France, madame.
Oh ben, j'ai vu.
On la tue, on l'étrangle. Même la petite auto-entreprise, on veut l'étrangler. Tous les moyens sont bons pour faire un nom politique et rajouter son nom à, effectivement, au coup de couteau qu'on trouve dans tout. Ceux qui auraient pu donner quelque chose, on l'étouffe dans l'œuf. Et moi, je suis vraiment... Je suis très en colère et je suis heureux d'être un homme relativement âgé, car effectivement, sinon j'exploserai, vous voyez. J'exploserai littéralement, parce que ça me remplit vraiment de colère. Et une banque qui a été créée à grand bruit, la banque de grand état, Montebourg et que sais-je, et la Sophia Loren, là, etc., qui est présidente ou vice-présidente, ben, ils auraient dû faire quelque chose pour les entrepreneurs comme vous, les petits, qui puissent les recevoir, analyser leur situation, leur donner le coup de main pour qu'ils puissent sortir des ornières, rien,
net.
Donc, je ne vois aucun changement maintenant, zéro.
Ben, je l'ai fait avec la banque, je veux citer le nom, pas, non, j'ai pas le droit.
Hein. Oh, vous pouvez faire comme vous voulez, mais bon.
C'est la BNP,
ouais.
La BNP, quand ça marchait bien, bon, ça fait 8 ans que j'ai cette boîte, quand ça marchait bien, tout allait bien, elle m'a donné les découvertes que je voulais. Et dès que ça allait pas, je lui ai dit, ben voilà, mais il y a rien pour moi. J'entends la télé, plein de choses sur les petites entreprises. Ah non, 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 il n'y a rien que vous... Parce qu'il fallait, à ce moment-là, j'avais encore à peu près 10 000 euros de dette. Là, maintenant, ça a doublé. Hein. Maintenant, j'en suis à plus de 20 000, 30 000, je pense.
Ouais.
Et elle m'a dit rien. J'étais assez choquée, quand même. Elle m'a dit rien.
On a très vite...
Alors que j'ai un compte professionnel, et la BNP s'occupe de professionnels aussi. J'étais choquée, elle m'a dit rien.
Ah ouais.
Rien. Non, il n'y a rien pour vous le même.
C'est comme ça, beaucoup de paroles en l'air, on fait beaucoup de projets, beaucoup de masturbation, je dirais, pour endormir les braves gens. Et donc, ça peut générer des colères, mais vous faites partie d'une minorité qui, elle, n'est pas entendue, madame. Elle n'est pas entendue parce que, d'une part, elle n'est pas aimée. Dès que vous êtes à votre compte, vous êtes un être louche. Si vous gagnez beaucoup, on vous envoie le fisc. Si vous gagnez bien, vous êtes ruiné, vous allez sous les ponts. OK, donc on va se revoir. Je vais voir là, monsieur le directeur adjoint. Monsieur Halder veut faire encore une mise
au point. Oui, Elisabeth, puisque effectivement vous avez un temps de parole à Radio Crésus, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs.
Ah oui, j'en ai. Et ben moi, je dirais aux auditeurs, s'ils veulent se mettre à leur compte en tant que libéral, c'est de se sécuriser, de faire attention à la trésorerie. Le calcul des cotisations, URSSAF, SIPA, RSI, et c'est des provisions. Et comme on ne sait pas de quoi sera fait l'année suivante, de mettre de côté et surtout d'avoir un soutien familial. Pour ne pas se retrouver seul comme moi, un soutien familial, de faire attention à tout ça. Et surtout que s'ils décident de se mettre à leur compte, le banquier vous fait le compte en banque tout de suite, l'URSSAF vous inscrit tout de suite, de vraiment bien réfléchir à le jour où ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites. Et puis à la maison, non, je ne vous en ai pas parlé, hein. Oui. Ma maison peut être saisie, je vais tout perdre, perdre.
Vous le savez, vous l'avez déjà intégré.
Oui, ça oui.
Bravo.
Voilà, on dirait vraiment de bien réfléchir à 10 fois, surtout avec le chômage qu'il y a, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment.
Non, bien sûr.
Ce n'est pas une bonne idée, aujourd'hui je ne le ferai pas, je déconseillerais, vraiment.
Ouais.
À moins d'avoir plein de sous de côté, d'être rentier à côté.
Oui, j'ai des sous à côté, je préfère les garder pour les temps durs qui s'annoncent. Il y a assez de nuages à l'horizon, madame.
Oui.
Et une fois que les sous, vous les avez dépensés, on ne vous en donne plus. Mais si demain vous en gagnez, on vous envoie le fisc et on vous les prend. Et demain, il y a tellement encore... Les gouvernements sont très lumineux dans les dispositions fiscales pour payer effectivement les conséquences de leur inconduite, quelles qu'ils soient. Les partis au pouvoir. Et donc, voilà. Donc, la France est aussi un pays en déficit, n'en parlons pas, en faillite, puisque vous savez quelle est la dette de la France. Aujourd'hui, on le sait. Ça, c'est 1900 milliards d'euros, vous voyez, alors que la richesse créée par année est à peu près de 2000 milliards. Donc, effectivement, il faudrait travailler une année en donnant toute la richesse créée, sans manger, sans rien. Voilà. Juste, et ça ne suffirait pas, puisqu'on ne pourrait pas payer les fonctionnaires, vous savez. Non.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre témoignage. À très bientôt sur Radio Crésus.
Merci encore.
Au revoir, Elisabeth.
Merci.
Crésus. Crésus. Radiocrésus.fr.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus pour cette spéciale entrepreneur. Nous saluons Monsieur Steinmetz, président de Crésus, qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Steinmetz. Et nous enchaînons avec Pénélope. Bonjour Pénélope.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez souhaité exposer votre situation avec nous, Michel Kneul, qui sera très attentif à votre interview, et également Marilyn Wächter, juriste à la Chambre de consommation d'Alsace. C'est à vous, Pénélope.
Bonjour, Pénélope.
Bonjour, monsieur Kneul.
Ça va ?
Merci, bien, ça va.
Très bien. Donc, on s'est rencontrés, et donc vous avez une belle histoire de femme d'action derrière vous. Mais au fond, aujourd'hui, on est dans le marécage et donc vous essayez de vous en extirper pour aussi sauver la vie familiale.
Exactement. Nous avons entrepris des petites choses avec mon mari il y a 4 ans en arrière. Effectivement, nous avons souhaité créer une petite entreprise, un magasin notamment. Nous sommes allés voir les banques, etc. Nous avons fait les démarches administratives nécessaires et d'usage. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on a peut-être eu beaucoup trop de facilité à obtenir les crédits nécessaires, etc. Puisque effectivement, nous avions eu un conseiller bancaire qui nous a accordé un crédit très facilement, très rapidement. Et quelques mois après, lorsque nous nous sommes rendus compte que la société finalement n'était pas pérenne, le chiffre d'affaires attendu n'arrivait pas, Nous avons souhaité éventuellement étendre un petit peu l'activité, réinvestir un petit peu, et partant là, bah, toutes les portes se sont fermées, tous les robinets se sont fermés, et on s'est effectivement retrouvé à y mettre des deniers personnels, etc. Et puis ensuite, effectivement, c'est un engrenage de choses qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, même la situation familiale, la situation financière privée, on a sacrément pâti. Et aujourd'hui encore, maintenant, on essaye effectivement de se sortir de ce pétrin.
Ouais. Vous avez combien d'enfants, madame?
Nous avons deux enfants.
Deux enfants, ils ont quel âge?
14 ans et 8 ans.
Eh ben, c'est beau, ça. Et ça demande de l'argent et du temps. Il faut leur consacrer pas mal, hein?
Exactement, ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent. C'est vrai que un grand garçon en collège, ça demande pas mal d'attention et pas mal de choses. C'est vrai que c'est une situation qui est pas évidente dans la mesure où on se retrouve à tout restreindre. On essaye bien évidemment de donner un maximum aux enfants, de se restreindre nous. Enfin, ce qui est le pire, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pensé un jour se retrouver dans cette situation-là. Et je pense que personne ne peut se rendre compte de la situation s'il ne la vit pas. Ouais. C'est vraiment très très difficile à imaginer lorsqu'on a une vie entre guillemets normale où tout se passe bien, où on n'a pas de problème. C'est très difficile à imaginer de se retrouver dans ce genre de situation.
Oui, donc votre situation était assez complexe et nous avons dû y consacrer pas mal de temps pour vous accoucher. Mais je dois dire que vous êtes une des seules personnes qui peut dire qu'elle a eu le crédit facile, c'est vrai. Parce que vous présentez bien, vous êtes une femme intelligente, donc vous êtes une femme convaincante et vous avez l'expérience de collaboratrice dans des situations ou dans un travail où, qui vous qualifiait aussi pour pas mal de choses. Donc vous étiez une personne reconnue et le banquier était peut-être un peu aveugle. Votre charme, votre intelligence ont joué et peut-être vous étiez trop bon dans votre auto-marketing. Là, vous voyez, ce qui vous a en finale nuit, puisque le banquier n'a pas fait plus de calculs que vous-même. Et vous-même,
non,
c'était...
pas du tout. Et vous-même... Pas du tout, car le crédit a été accordé en l'espace de 24 heures. Le crédit a été accordé sans plus de demandes ou de ça s'est passé, mais comme quand vous allez acheter votre pain, hein, c'est voilà.
Ça m'étonne pas, vous savez. Eh bien, si j'étais le banquier, j'aurais peut-être fait attention, mais peut-être je vous l'aurais accordé aussi, compte tenu de ce que vous représentiez. Notre président, M. Alois Steinmetz, aurait été plus suspicieux, malgré qu'il aurait amplement aussi estimé vos grandes qualités. Vous voyez, nous sommes tous différents les uns des autres, vous voyez. Mais
exactement.
C'est comme ça. Et en plus, vous aviez donc il y avait cette petite société dont s'occupait votre mari, qui est spécialiste dans le domaine de l'activité qu'il avait. Et donc, il s'est établi, vous l'avez soutenu, et tout a marché par crédit. Il faut dire que vous-même, vous aviez donc effectivement voulu asseoir la famille aussi dans la maison familiale. Vous aviez fait un achat à travers une SCI, où il y a eu du terrain, et donc vous avez morcelé le terrain, vous avez vendu du terrain, après vous avez transformé effectivement une grange et vous avez vendu la maison devant, et partout vous avez investi. Au fond, c'était quasiment une activité intéressante, mais effectivement qui vous emballait dans une activité quasi professionnelle, et c'était une fuite en avant. Donc vous aviez toujours de l'argent qui circulait, et au fond le banquier, au lieu de prendre la loupe et de vous poser les bonnes questions, il vous a accompagné dans votre fuite en avant, vous voyez?
Exactement.
Vous y étiez.
Mais en fait, ce qui s'était passé avec cette SCI, effectivement, j'avais donc fait la demande de prêt pour acquérir cette propriété qui était constituée d'un groupe de grands terrains constructibles, ainsi que d'une maison habitable et d'une grange attenante. À l'époque, effectivement, j'avais prévu de vendre les terrains étant constructibles dans les calculs. voilà, en vendant les terrains, ça devait me permettre d'absorber la partie de crédit qui ferait que j'aurais été capable de rembourser éventuellement la part de crédit qui restait en m'installant dans la maison effectivement qui était habitable. Malheureusement, c'est vrai que c'est arrivé à une période, en 2008, hein, c'est arrivé à une période où en l'espace de 3-4 mois, l'immobilier a chuté de 40%. Résultat, je me suis retrouvée avec tout ce que j'avais prévu de vendre, les terrains, etc., me sont restés sur les bras, bien évidemment, au prix auquel je voulais les vendre. Et j'ai été forcée, finalement, de les vendre quand même, parce qu'il faut essayer de s'en sortir quand même. J'ai été forcée de les vendre, mais quasiment à la moitié du prix que j'escomptais au départ. Et c'est ce qui fait que à un moment donné, on se retrouve avec pas les rentrées qu'on escomptait, mais derrière le crédit quand même. Crédit énorme qui m'a, ça aussi, ça m'a choqué même à l'époque, mais voilà, quand on est dans cet engrenage, okay. On s'en rend pas vraiment compte
non,
pour
non,
le coup.
Crédit
énorme qui m'a été accordé, lorsque je fais le calcul aujourd'hui et que je regarde le tableau d'amortissement, ce crédit me donne quand même un taux d'endettement de 80% pour ce crédit par rapport à ce que je gagnais à l'époque quand le crédit m'a été accordé.
Et vous aviez des crédits qui se chevauchaient, autant pour l'activité du mari que pour l'activité immobilière, etc.
Voilà,
Donc on va en rester là. Votre cas est très intéressant parce que pour une fois, on ne tue pas le banquier. Dans le mauvais sens, vous voyez, parce qu'habituellement, il coupe le robinet à un moment donné, ce qui a été le cas chez vous, mais le mal était fait.
Eh oui.
Au début, il vous a donné l'argent, c'est un quitte ou double. Si tout avait marché et si la conjoncture était brillante et montante, vous auriez sans doute fait un bon coup, comme on dit. Hein?
Au moins, je n'aurais pas été dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui.
Mais pour conclure, vous avez pris un gros risque et vous ne l'avez pas évalué à sa juste valeur. Aujourd'hui, vous avez de l'expérience et vous feriez sans doute autrement.
Oh oui, oh oui, oh oui.
Voilà.
Alors justement, Pénélope, sur Radio Crésus, nos auditeurs sont toujours à l'écoute de bons conseils. Quels seraient les conseils à leur donner?
Surtout de ne jamais foncer sans réfléchir. Réfléchissez bien. Même si vous avez véritablement envie de faire quelque chose, vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de réaliser, réfléchissez bien, prenez votre temps. Ne vous lancez pas, même si le cœur y est, même si l'envie y est, réfléchissez bien et faites les bons calculs au préalable, parce qu'une fois que c'est fait. Oui. On ne revient plus en arrière.
On est d'accord, Pénélope. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Mais de rien.
À bientôt sur Radio Crésus.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour Gérard, vous êtes sur Radio Crésus et vous souhaitez témoigner. Nous avons avec nous Michel Knöll, Marine Wächter, Aloïse Steinmetz, président de Crésus. Nous vous écoutons, Gérard.
Oui, bonjour.
Bonjour
oui.
Gérard. Alors,
bonjour.
Exposez. Oui, on a du temps pour exposer votre situation. Et Michel Knöll sera là pour effectivement mettre en lumière effectivement les difficultés que vous avez rencontrées.
Voilà, Gérard, ça va bien.
Ça va bien, et vous?
Vous êtes en forme?
On très en forme, oui, tout à fait.
Non, vous étiez très malade aussi, souffrant, alité.
Oui, justement, là, je suis encore un petit peu souffrant, mais tout va bien, là. Hein.
Alors, on va pas vous tuer, monsieur Gérard, n'ayez pas peur.
Hein.
Vous êtes
très
tout
bien.
À fait libre. C'est juste pour que les Crésus puissent profiter de votre vécu, de vos souffrances, de vos espoirs, car vous êtes en renaissance, n'est-ce pas? Les choses finissent quand même par s'arranger, et vous êtes passé quand même par des cheminements avec beaucoup de douleur. Hein. Donc, on résume, vous aviez créé votre société.
Donc, j'avais créé ma société, donc, qui était donc un bar.
Ouais.
Donc création du fonds de commerce que j'ai exploité pendant 6 ans.
Ouais.
Et que j'ai mis en vente, donc, le fonds de commerce, puisque j'étais aussi propriétaire des murs, donc, le fonds de commerce en 2010, donc, compromis de vente avec un bail commercial qui avait été établi puisque les sous devaient arriver, donc, au niveau de l'acquisition du fonds, donc, parfois, sur foi d'un notaire. En cours de route, la banque s'est rétractée au niveau des acquéreurs. Et par contre, il y avait un bail commercial qui avait été signé. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui ne payaient pas les loyers. Le fonds de commerce n'a jamais été payé puisqu'il y avait une procédure à ce niveau-là. Donc, 8 mois de procédure pour les sortir à nouveau. Et bien sûr, donc ils sont sortis des murs. Bien sûr, dégradation des locaux et de la clientèle aussi, hein, puisque tout s'est dégradé. Et donc j'ai repris l'affaire en cours de route, donc en redressement, mais c'était impossible à donc puisqu'elle est partie en liquidation donc peu après, puisque avec tout le lourd passif qui était accumulé, c'était impossible de passer le redressement en fait. Hein.
C'est pas ordinaire votre situation. Donc si on met juste un petit trait en dessous de cette première phase, vous aviez créé le fonds, vous n'aviez pas acheté le pas de porte à l'époque, non ?
Non, c'était une création.
C'était une création. Et donc l'achat du local était quasiment concomitant à la création du fonds.
Oui, tout à fait.
Et c'était
fait en même temps.
Donc sous forme de SI, mais à caractère plus familial. Hein.
Oui, plus familial, puisque j'ai donc pour réussir à avoir l'acquisition des murs, hein, des locaux en fait, il fallait une caution en fait, et mon papa s'est porté cautionnaire. Hein,
donc vous avez quasiment frôlé en permanence le précipice. Hein, c'est affreux, autant pour vous que pour vos parents, parce que
on aurait aussi, puisque voilà, je les entraîne quand même, hein, puisque là, puisque les procédures sont toujours encore en cours, il y a beaucoup de procédures encore, et mes parents sont bien sûr mêlés à ça, en fait, hein, puisque là, au niveau des murs, puisqu'il n'y avait plus de loyer qui rentrait, donc bien sûr, les prêts n'étaient pas honorés, donc bien sûr, la banque a demandé une vente forcée, et bien sûr, avec le cautionnement du papa, donc ça entraîne tout ça, en fait. Hein.
Ouais, c'est terrible, hein. Et alors là où il y a le tournant dans votre affaire qui n'est pas tellement courant, c'est que l'acte de vente, vous aviez vendu le fonds ou uniquement les parts de votre SARL quand il y avait...
Non, le fonds. Le fonds. L'époque. Hein.
Donc
il y avait une attestation bancaire, bien sûr, mais sur foi du notaire, puisqu'on était en période... J'étais peut-être un peu naïf là-dessus, en fait, puisque je faisais vraiment confiance à un notaire, mais on était en période de Noël, donc il n'y avait pas la possibilité de faire la vente tout de suite, puisque voilà, donc c'était l'excuse à l'époque, en fait. Hein, donc un bail commercial, j'avais établi un bail commercial au 1er janvier, et la vente devait se faire à effet rétroactif, en fait. Hein.
Elle devait se faire... En principe, avant, n'est-ce pas, la rentrée dans les locaux. Or, vous leur avez...
Voilà, dans la logique.
Vous avez signé le bail avant Noël aussi, et vous leur avez donné gentiment les clés de suite, hein.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est des erreurs, hein, vous êtes d'accord?
Non, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que j'étais très confiant envers un notaire, pour moi, un notaire, voilà. Sauf du notaire, en fait, ainsi de suite. Donc,
et ça s'est fait en présence du notaire, tout ça?
Oui, tout à fait.
Parce que l'acte de bail était un acte notarié, hein.
Voilà.
Donc le notaire a aussi engagé sa responsabilité dans votre histoire.
Oui, tout à fait.
Vous n'y avez jamais songé à le poursuivre en partie en dommage intérêt?
J'y ai songé, mais bien sûr ça engage beaucoup de frais, puisque donc il y a eu beaucoup de frais de procédure aussi pour les sortir et autres. Le notaire se décharge de tout ça, puisque donc la banque des acquéreurs à l'époque, en fait, enfin des éventuels acquéreurs, s'est rétractée avec le licenciement du directeur d'agence qui avait accordé ce prêt à ces gens-là. Donc ce monsieur a été licencié de la banque, le directeur d'agence, puisqu'il n'avait pas l'autorisation d'accorder un prêt de ce montant-là.
C'est quelle banque, là?
C'était donc à l'époque, c'était le Crédit Lyonnais.
Dis donc, mais eux, ils vous ont fait un gros dégât et ils étaient responsables des engagements de leur directeur au moment où il a donné la signature. Donc normalement, vos parents pourraient poursuivre effectivement la banque pour dommage-intérêt, parce que là, vous en subissez les conséquences.
Ouais. Donc, là, il y a eu une procédure, en fait, qui est toujours en cours, d'ailleurs. Hein, puisque c'était des associés à l'époque, donc il y a un des associés qui a poursuivi la banque, en fait. Et nous, donc, par mon avocat, donc, on a poursuivi en parallèle. Ça n'a toujours pas abouti, en fait, pour l'instant. Hein.
Et pour l'instant, vous êtes toujours sur la paille, car ça vous a coupé tous vos moyens, au fond, cette histoire.
Ah, tous mes moyens, donc, puisque je n'ai plus de revenus du tout, bien sûr, sur...
Oui. Oui, oui, c'est terrible, hein. Vous êtes un mec bien. Une seule chose est bien, c'est que vous êtes encore célibataire, hein.
Allô, Gérard ?
Oui,
je crois que vous avez perdu.
Allô ?
Oui.
Gérard, vous êtes encore célibataire, c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose.
Vous avez peut-être une amie, hein.
Mais bien sûr, quand tout ça arrive, voilà, tout le monde part en même temps, en fait.
Ah, elle est partie aussi.
Elle est partie aussi.
Ah, quelle expérience. Ok.
Elle est partie aussi.
Oui, oui Gérard, pour nos auditeurs de Radio Crésus, des conseils à donner ?
Des conseils. Moi, le conseil que je puisse donner, en fait, puisque à un moment donné, je me suis retrouvé dans une telle situation, je ne savais plus à qui m'adresser, quoi faire, et je ne voyais plus tout le bout de quoi que ce soit, en fait, et je me suis tourné vers Crésus, en fait. Et voilà, donc le conseil, ce serait vraiment de se tourner vers Crésus, et puis d'avoir des gens comme M. Knoll, en fait, qui vous aident. Voilà.
Eh bien, voilà, donc merci à vous, Gérard, pour ce témoignage poignant.
Merci.
Et à bientôt sur Radio Crésus.
Merci, Gérard.
Merci à vous. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.
Vous écoutez toujours Radio Crésus et nous enchaînons avec Émile. Bonjour Émile.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, vous avez souhaité témoigner. Et avec nous, Michel Knoll, expert sur la question de l'entrepreneur. Nous avons Marilyn Wächter, juriste à la Chambre de consommation d'Alsace. Également Louise Steinmetz, président de Crésus, et moi-même, Régis Salter. Voilà, alors Michel Knoll va mener cette interview avec vous. Qu'avez-vous à nous dire, Émile ?
Eh bien, écoutez, la première chose que je dirais, c'est de remercier Crésus, que je connais depuis de nombreuses années, puisque je suis membre de l'association. Et aujourd'hui, j'ai besoin de cette association parce que, il y a 23 ans, j'ai été, caution sur un prêt pour acheter une affaire que mon épouse et une de ses amies avaient acheté. Et puis les choses se sont mal passées, les chiffres qui nous avaient été donnés étaient faux, le prix qui nous avait été proposé était un petit peu gonflé. La banque a prêté plus de 4 millions de francs à l'époque avec un apport de 180 000 francs. Et au bout d'un an, la société a été en dépôt de bilan et depuis 23 ans, les choses traînent jusqu'à ces dernières années où il y a 5 ans où la banque nous a attaqué en tant que caution pour nous réclamer et donc de payer la dette. Aujourd'hui, nous sommes obligés de payer cette dette. Le tribunal, chaque fois en première instance, nous donnait raison et chaque fois en appel, nous perdions. Aujourd'hui, sincèrement, je suis un petit peu perdu. Je suis en grosse difficulté puisqu'il s'agit pour moi de sortir une somme d'argent que je n'ai pas.
Bonjour Émile, Michel Knoll.
Bonjour Monsieur Knoll.
Voilà. Je vous entends là dans vos souffrances, Monsieur Émile. Donc, je viens à votre secours pour juste cadrer un peu, car vous-même, vous aimez beaucoup votre femme, et encore aujourd'hui, bravo. Et vous étiez effectivement caution dans le cas d'un achat par votre épouse et d'une autre personne d'une affaire, je crois même à Lille, dans le Nord.
À Cambrai.
Donc, cette affaire était effectivement très chère, avec sans doute des chiffres pas valables, et elle était acquise en SNC, c'est une société en nom collectif.
Oui,
donc, il faut dire que dans une SNC, tout le monde est solidairement responsable, donc à hauteur de sa participation, des engagements de ce type de société. C'était le type de société, d'ailleurs, qu'utilisait Bernard Tapie quand il a monté, effectivement, sa holding, c'était SNC, puisqu'effectivement, on est responsable soi-même, donc on est plus à même d'avoir des crédits importants, ce qui était aussi le cas dans vos engagements. Or, la banque ne vous avait sans doute pas bien conseillé à l'époque, et d'une part, vous êtes rentré dans une région où vous n'étiez pas tout à fait chez vous, Donc, il y avait des connivences entre l'expert comptable, les rédacteurs d'actes, les banquiers, etc. Bon, bref, puisque vous êtes rendu compte seulement après que ce que vous avez soumis comme chiffre était faux.
Oui, tout à fait.
Et quand vous en avez fait état, eh bien, c'est OK. Mais le mandataire, lui aussi, a fait table rase de tout cela. Il n'en a jamais été tenu compte, ni par le mandataire, ni par les juges ultérieurs, etc. Donc, vous êtes carrément, vous avez fini en salami. Vous voyez, on vous a mis dans la machine, on vous a broyé, terminé. Et aujourd'hui, vous êtes un homme en tant que époux de votre épouse, donc de votre femme, oui, elle l'est toujours, caution. Et donc, des chiffres, bien sûr, faramineux. Votre épouse, elle, en tant qu'associée et donc gérante de la SNC, est en liquidation. Donc, c'est une affaire qui traîne depuis des années. Hein. Et nous, on s'est connus...
Ça traîne depuis 23 ans maintenant.
Ouais, on s'est connus, effectivement, dans les années 2006. Hein. Donc, ça fait 7 ans. Et donc, vous aviez beaucoup d'espoir, parce que vous aviez des fois gagné en première instance, et puis après, ça a été de nouveau annulé en appel, etc. Bon, parce que les dossiers sont des fois analysés sur un plan effectivement purement théorique. Ça dépend sur les juges sur lesquels vous tombez. Les juges, effectivement, ils voient tous ces hommes d'argent, les engagements, etc. Donc, ce n'est pas toujours objectif à 100%. On mettrait le problème des fois dans un logiciel spécial. Je crois que la justice serait des fois mieux rendue que par les juges. Hein. C'est une question qu'on peut se poser, vous voyez ? Parce que votre dossier, s'il était rationnellement étudié et en toute quiétude, et on enfermerait deux juges dans une chambre durant 8 jours, je pense que vous n'auriez jamais été condamné en tant que caution, car il y avait trop, effectivement, d'erreurs dès le départ, effectivement, dans ce dossier. Donc, je peux dire, franchement, vous êtes une victime et vous n'avez jamais été une victime. Vous avez été un mec drôlement bien. Vous avez assumé de très hautes responsabilités dans le monde de l'entreprise, à très haut niveau. Et même une fois à la retraite, vous avez continué encore en tant que consultant et pour des très grosses entreprises. Donc, vous êtes un type remarquable, comme on n'en voit pas beaucoup. Hein. On n'en voit pas beaucoup. Ah non, j'ai vu un grand banquier allemand qui était très bien avec l'ancien ministre Rocard et qui fumait le cigare et qui était donc directeur d'une banque allemande qui s'était installée sur la région à l'époque et qui a mal fini ce banquier, vous voyez. Ça arrivait aussi à ce niveau. Donc, il avait beaucoup d'appartements, tout s'est écroulé, une centaine de logements, etc. Et tout s'est écroulé, et bien sûr, mais il a une retraite vraiment imposante, ce banquier, mais il est aussi, effectivement, en slip, et je crois qu'il partage une amitié avec Rocard. Donc, c'est bien. On voit beaucoup de choses comme ça à Crésus, et c'est marrant, c'est amusant, hein, parce qu'on apprend à mieux connaître la vie à travers tout cela, et dans tous les milieux. Nous ne sommes pas des gens qui recevons que des personnes du RSA ou des personnes effectivement sous les ponts, nous en recevons, mais de toutes les catégories, mais nous avons aussi des gens comme vous et l'autre monsieur, donc quand même hors norme. Donc votre dossier, on va voir tout ça parce que vous naviguez de Caribe dans Scylla, et vous aimeriez bien aussi à un moment donné trouver un peu la paix, car aujourd'hui vous êtes quand même un homme qui a dépassé 65 ans, et vous méritiez aussi quelques considérations avec du repos mérité. Parce que là, on vous bouffe littéralement tout, vous retrouvez complètement à poil, malgré que vous aviez une vie où il n'y avait que de l'engagement et encore de l'engagement, et d'une manière positive, car vous êtes un de ces animateurs d'économie dont le pays aurait grand besoin, même à votre âge encore, et puis vous êtes écrabouillé là. Voilà, donc je vais redonner la parole, parce qu'il va vous demander de dire deux, trois choses, Monsieur Halter. Pour résumer, et après nous avons d'autres personnes encore, et on se reverra, Monsieur Émile, avec grand plaisir, hein, pour faire le point.
Oui, Émile,
je vous remercie.
Voilà, Émile. Oui, ce qui est important, c'est que vous puissiez aussi donner des conseils à nos auditeurs par rapport à votre situation, à votre vécu. Et c'est vrai que votre histoire, est, on le voit, est dure depuis longtemps. Alors aujourd'hui, si vous aviez en quelques mots, un conseil à donner à nos auditeurs.
Je dirais que le premier des conseils, c'est avant tout achat, de bien vérifier tout. Là, malheureusement, on pensait que l'agence qui a vendu, on pensait que le comptable, on pensait que la banque avait vérifié tout ça. Bon, on s'est aperçu que non. Je pense aussi qu'il faut également être très méfiant vis-à-vis des banques. Peut-être qu'aujourd'hui, les banques sont un petit peu plus proches de leurs affaires. À l'époque, la banque en question cherchait surtout à faire du chiffre et prêter 4 millions sur un apport de 180 000 francs. C'était complètement ridicule. Mais moi, à l'époque, je me trouvais au chômage et on s'était dit que c'était une façon de pouvoir continuer à vivre. Donc, faire très attention avec les banques, faire très attention avec les organismes de crédit. Et puis, surtout, la personne dont il faut se méfier, je pense, le plus, parce que c'est une personne qui ne pense qu'à elle-même et qu'à son portefeuille, c'est le mandataire, c'est le liquidateur, en l'occurrence, qui traite les affaires comme il a envie, quand il en a envie. Et aujourd'hui, ben, ça fait 23 ans que ça dure, ça fait 23 ans qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'épée vient de tomber.
Donc pour conclure, hein, vigilance, prudence hein, pour l'entrepreneur sont les deux mots de la fin pour cette interview. Merci beaucoup, Émile, pour votre témoignage.
Au revoir, Émile.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Bonne journée.
Crésus. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
Vous écoutez Radio Crésus spécial entrepreneur avec Michel Kneul. Bonjour Michel. Marine Wächter.
Bonjour.
Alois Steinmetz, président de Crésus.
Oui, bonjour.
Et nous enchaînons avec Roger. Bonjour Roger. Vous venez témoigner sur Radio. Oui, vous êtes sur Radio Crésus et vous témoignez. Racontez-nous votre histoire. Michel Kneul va vous interviewer.
Oui, bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Kneul.
Ça va bien?
Ça va, oui.
Ouais. Ok, donc vous m'avez déjà parlé de votre cheminement d'homme d'entreprise, qui a déjà beaucoup entrepris, qui a déjà pris aussi des coups de pied au derrière, et qui
C'est
a
ça.
Donc déjà des bonnes expériences et des moins bonnes, mais qui est toujours effectivement donc résolu à croire encore en l'entreprise, malgré les découvertes qu'on fait souvent, auxquelles on ne s'attendait même pas, et qu'il
Tout
faut constamment avoir des solutions de réadaptation. Donc, il faut être très flexible comme chef d'entreprise, parce qu'il faut effectivement s'adapter à l'ère du temps, d'une part, et puis, avec tous les partenaires auxquels on est confronté, il faut essayer de les comprendre afin qu'ils puissent eux-mêmes mieux nous comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas.
Tout à fait.
Donc, vous avez une expérience, donc, et vous n'avez pas lâché, puisque vous avez un groupe de sociétés et un holding qui coiffe ces sociétés, qui sont des intervenants dans le domaine donc, des services.
Hein. Tout
donc,
à fait.
Voilà, et vous occupez quand même pas mal de personnes, ce qui n'est pas toujours facile, car il y a des grosses charges sociales, et les trimestres, quand il faut faire les chèques, c'est très lourd. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, faites-nous juste part un peu de tous ces problèmes, un peu, afin que des auditeurs de Radio Crésus puissent profiter aussi de votre expérience.
Alors, je ne sais pas par où je vais commencer, mais rapidement, pour un
oui.
petit point, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on commence dans la vie d'entrepreneur, notre but, c'est toujours de faire une belle société où les salariés vont s'y sentir bien, et surtout en disant, nous, on fera ce qu'on peut pour avoir la société la plus agréable à vivre. Malheureusement, pour réussir à faire tout ça, on se rend compte très vite que c'est pas aussi facile. Parce que même si on est associé unique d'une société, on a déjà un associé dormant tout le temps, mais qui coûte très cher, c'est l'État, qu'il faut faire aussi avec lui. Quand on commence sa structure, on voit pas forcément dès le départ jusqu'où on va arriver. Je me suis jamais dit qu'on aurait une grosse société avec plus de 50 salariés ou autre. Alors quand je dis grosse société par rapport à quelqu'un qui commence, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite dans l'esprit. Et du coup, ben, on se retrouve très vite à travailler, faire son boulot, le faire bien, être récompensé, on va dire, par tout ça, par avoir de plus en plus de clients. Et à un moment, nous, on a fait une erreur qui nous a été fatale sur une de nos structures, c'est de se dire, OK, maintenant, on commence à avoir assez de renommée pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Les réponses aux appels d'offres ayant été plutôt positives, on en a gagné à peu près 3 sur 4 sur nos réponses, on s'est retrouvé confronté, nous, à un nouveau problème, c'est la trésorerie. Cette trésorerie qu'on avait à chaque fois d'avance à l'époque, lorsqu'on a commencé à travailler avec des administrations ou autres, eh ben, on s'est retrouvé plutôt avec 6 mois de retard de trésorerie, étant donné que les délais de paiement de ces structures sont très très longues. Là où je trouve que c'est un petit peu inadmissible ce processus, c'est que quand nous on a un jour de retard sur de la TVA, on a tout de suite des majorations qui s'appliquent et pour les faire sauter la première fois ça peut peut-être aller, la deuxième on oublie déjà. Par contre, lorsque eux ont 6 mois de retard, quand nous on veut essayer de mettre des pénalités, ça n'existe même pas en rêve, quoi. On a été obligé, nous, de mettre en liquidation une société qui avait, en l'occurrence, plus d'une trentaine de salariés, tout simplement parce que nous n'avions plus la trésorerie pour suivre tout ça. Et du coup, malheureusement, même si on nous a dit « Oui, mais attendez, vous inquiétez pas, la dette est sûre, cela reste une dette lorsque votre client, l'État, ne paye pas. » Alors, vous allez me dire, il existe des organismes, OSEO, il existe que des organismes de daily, de facturage, tout ce genre de choses, mais il y a un moment où la situation devient tellement lourde à gérer que malheureusement, même là, ça claque. Et c'est ce qui nous est arrivé, entre autres, encore dernièrement sur une autre société où on a réussi à se retourner. C'est que derrière, pour ce type de structure, on fait appel à un organisme de daily, donc en l'occurrence notre banque, qui nous avance la dette de notre client, l'État. Et au bout d'une certaine période, ben, si l'État n'a pas payé, on est redébité de notre compte. Normal, pour eux, c'est un impayé, ça n'a pas été payé dans les délais. Donc, l'argent qui nous a été avancé est redéduit de notre compte, ce qui nous fait arriver très souvent à découvert. Du coup, ben, l'échec qui était censé passer ne passe plus, donc ça passe en interdit bancaire. Et quand, par malheur, ça arrive à un moment où on doit renégocier des lignes de crédit, comme c'était le cas pour nous, interdit bancaire dit pas de négociation de ligne de crédit, et donc ensuite arrivent les mésaventures. Alors, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on a l'impression que avoir de beaux clients avec de belles images, c'est très important, mais réellement, en ce moment, si critique, j'allais dire, dans l'économie, ce qui est le plus important, c'est la trésorerie, et donc il faut privilégier les clients qui payent, mais qui payent rapidement. Donc voilà, pour moi, pour la première, peut-être, partie de discussion.
C'est très intéressant, Monsieur Roger, car vous êtes un chef d'entreprise et l'entreprise est indispensable dans un pays où il y a du chômage, où il faut effectivement donner du travail aux uns et aux autres, et alors que effectivement le mal empire. Nous avons bien une société maintenant bancaire d'État qui a réuni OSEO et autre chose. Elle serait tout à fait apte à prendre le relais dans ces situations-là. Mais tout est tellement administratif et long qu'on peut crever 36 fois avant qu'on puisse, le cas échéant, être aidé.
C'est ça. Donc, Alors, après, je me permets, excusez-moi de vous couper juste sur un point. Ce que je trouve assez inadmissible, c'est qu'en fait, un organisme public qui nous doit de l'argent, donc j'essaye de ne pas citer nos clients, mais un organisme public qui nous doit de l'argent va nous dire, mais attendez, vous savez, OSEO peut vous avancer l'argent qu'on on vous paye pas tout de suite, vu qu'on est hors délai. Alors, pour tout le monde, il y a quand même des lois, LME, LRE, j'allais dire, pour payer dans les 45 jours. Pour l'État, ça ne se passe pas comme ça. Bon, ça, soit. Mais le pire, c'est qu'OSEO, qui est quand même un organisme aussi d'État, qui n'est pas 100% indépendant, eux prennent un pourcentage, j'allais dire, lorsqu'ils avancent de l'argent. C'est-à-dire que l'État, en ne payant pas rapidement, en jouant avec notre argent, avec les intérêts, nous dit, prenez OSEO qui va vous avancer l'argent, moyennant un paiement, j'allais dire, sur la prestation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment gagnants et que nous, au final, on a l'impression de se faire avoir au quotidien, quoi. C'est-à-dire que travailler pour certains organismes d'État nous coûte de l'argent.
Oui, c'est tout à fait vrai, Monsieur Roger. En fin de compte, quand on est chef d'entreprise, on a des fins, dans les petites entreprises surtout, parce que on n'a pas ces entreprises chez nous où il y a les énarques à la pointe, etc., qui sont des protégés et qui sont partie du système, quel que soit effectivement le pouvoir en place. Vous êtes des petits et vous créez effectivement des emplois, et quand vous mourrez, vous avez droit à rien, Au contraire, c'est toujours une humiliation en plus. Et les mandataires judiciaires eux-mêmes n'ont pas souvent l'expérience du vécu que vous avez en tant que chef d'entreprise. Et ils vous traitent des fois avec un certain dédain et aussi des fois comme si vous étiez un coupable. Donc c'est des tas de choses comme ça qui sont insupportables et qui sont irritantes. Et si on a encore le courage de persévérer dans l'entreprise, je tire toujours mon chapeau, car il faudrait qu'on soutienne ces gens-là aujourd'hui, où il y a des problèmes, on parle que du surendettement des particuliers, endettés. Mais tout, vous qui êtes dans les rouages de l'entreprise, de la création de la richesse, on vous ignore. Et moi, c'est ceux qui m'horripilent.
Bah, pour revenir, si on a le temps, sur la partie mandataire, il est vrai que du coup, dans ma carrière qui est assez courte pour l'instant, ça fait que 13 ans que j'ai des sociétés, mais j'ai dû donc liquider une société. Alors, la grosse différence entre, par exemple, nous et les États-Unis, on parle souvent l'Eldorado États-Unis, ce qui n'est plus tout à fait vrai, mais quand même, sur l'entrepreneuriat, il y a du bon. Souvent, on dit un entrepreneur qui n'a pas liquidé une société aux États-Unis, c'est qu'il n'est pas encore vraiment chef d'entreprise, quoi. Il n'a pas encore tout connu. En France, on a l'impression qu'on est maudit sur 10 générations. Ah, c'est le petit-fils du petit-fils de celui qui a liquidé la société. Donc, c'est un peu le ressenti qu'on a. Or, effectivement, comme partout, il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons. Quand je dis mauvais, c'est-à-dire des gens qui ont fait des vraies malversations. Cela, on n'en parle pas. Il ne faudrait pas que ça existe. On est d'accord. Mais par contre, liquider une entreprise, c'est un outil de gestion qui est malheureux parce que il y a eu des aléas dans la vie de l'entreprise qui fait qu'on ne peut plus subvenir aux besoins de la société. Et par chance, avec tout ce qu'il y a autour, AGS, assurance de garantie des salaires ou autre, les salariés ne sont pas touchés avec ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on a fait ça et qu'on continue à essayer de faire vivre des salariés parce que nous, le système qu'on avait était un groupe multisociété qui nous permettait justement au cas où de pouvoir préserver des salariés alors qu'une structure était en difficulté. On a vu très nettement qu'à partir du moment où j'ai mis une des sociétés en liquidation, on nous a mis vraiment des bâtons dans les roues dans les autres sociétés qui, elles, vivaient encore correctement et où il n'y avait pas de problème. Sauf que les banques nous ont fermé les vannes, nous ont enlevé les crédits, nous ont enlevé les découverts autorisés, que derrière, les mandataires judiciaires ont, comme ils l'ont dit très clairement, un dossier à charge pour essayer de voir s'il n'y a pas des malversations, des choses comme ça. En soi, je comprends, c'est leur travail. C'est la façon de le faire où il n'y a en fait aucune tolérance par rapport à un chef d'entreprise qui s'investit et qui investit tout son argent, parce que généralement, comme la plupart des petites sociétés, en fait, notre première source d'investissement, c'est dans notre propre société, avant même de penser à nous. Et tout ça n'est pas du tout valorisé et surtout pousse les gens à avoir envie de rien faire. On se demande très souvent, j'allais dire toutes les semaines, en se disant mais pourquoi on est chef d'entreprise ? Ça serait tellement plus simple de rien faire et de toucher l'argent. C'est vrai que le système français fait que, de temps en temps, on a l'impression d'une grosse injustice, tout simplement parce que on n'arrive pas forcément, nous, à sortir un salaire, alors que si on était chez nous à rien faire, on pourrait très bien avoir une partie de chômage, des RSA, même si c'est minime, on est bien d'accord que ça ne suffit pas à vivre, mais par rapport à toutes les heures qu'on fait, nous, on est bien, bien, bien en dessous, souvent, des tarifs du SMIC. Alors, après, ce qui perturbe, j'allais dire, là-dedans, c'est de se dire, on continue tous les jours à se faire violence en se disant, allez, on a des salariés qui valent le coup, et j'ai heureusement la chance d'avoir des salariés qui valent vraiment le coup, qu'on se batte pour eux, mais c'est vrai que c'est très, très lourd psychologiquement d'être dans un, on va dire, dans un contexte qui s'aggrave, mine de rien, où l'entrepreneur est souvent montré du doigt, alors que si on n'était pas là, c'est impossible de remonter la courbe du chômage, j'allais dire, à des niveaux acceptables.
Ok, monsieur Roger, vous étiez vraiment très, très complet dans votre présentation. Nous vous remercions infiniment. Vous avez résumé Merci. Tous les points auxquels il faut faire attention. Et monsieur Alter, vous croyez, il faut rajouter
tout à Oui, je crois que effectivement, Roger, vous avez, on sent bien que vous incarnez vraiment l'esprit d'entrepreneur, à travers votre récit. On sent bien votre implication et votre envie de bien faire. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte à travers votre interview, que votre entreprise dynamique cette volonté, effectivement, de fournir un cadre dynamique est un atout pour notre pays, mais qui est malheureusement mise à mal par des systèmes administratifs qui sont lents et qui tuent finalement toute cette dynamique. Hein. Alors, si vous aviez un conseil à donner, un ultime conseil à donner à nos auditeurs.
Alors, moi, j'ai envie quand même encore de croire à tout ça, et je me dis qu'on s'accroche. Le premier conseil, c'est si possible de réfléchir à faire travailler son voisin plutôt que très loin pour que ensemble, tous en France, on arrive déjà à ressortir un peu la tête de l'eau.
Eh bien,
bravo Roger, bravo, bravo, c'est excellent. Félicitations.
Merci bien.
Merci.
Merci beaucoup Roger.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Des chansons.
Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes avec Radio Crésus pour cette spéciale entrepreneur et nous recevons Joseph que va prendre en charge Michel Knull.
Oui, bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Très bien. Donc, au fond, je vous ai rencontré, vous êtes un personnage solide, intéressant et qui a très vite compris que la création d'entreprise, c'est pas mal du tout, mais qu'au fond, aussi longtemps qu'on est salarié et quand on a une bonne entreprise, on est quand même plus tranquille que d'être patron. Hein?
Ah oui, ben oui, c'est sûr. Oui.
Parce que vous aviez créé une SAS, donc c'est une très bonne forme de société. Vous avez eu du travail et tout parce que vous faisiez beaucoup de sous-traitance, n'est-ce pas, pour des firmes sérieuses.
Voilà. Ouais.
Mais au fond, il faut être payé et des fois les paiements ne sont pas aussi rapidement alors que vous avez les salariés à payer, donc il y a un fonds de roulement qui est un peu étroit, n'est-ce pas?
Voilà, qui manque oui, un peu dans notre cas là.
Donc c'était effectivement votre gros problème, hein?
Oui, oui. C'est ce qui nous a amené à déposer le bilan, quoi.
Voilà. Donc vous avez pu arranger le problème donc d'incompréhension avec le cabinet d'experts comptables?
Donc c'est en cours d'arrangement là, donc on va voir comment ça va se définir, ça devrait être fait pour lundi ou mardi.
Voilà, pour éviter donc, justement voilà. Que, en dépôt de bilan, vous avez un passif qui est quasiment pas important, c'est quasiment nul, parce
oui,
que toute entreprise qui commence a de suite un passif, vous savez, et de suite il faut avoir la psyché pour supporter tout ça. Parce qu'on n'est jamais net, on est toujours un peu engagé. On n'a jamais les vacances. Et si vous partez en vacances, vous emmenez ces problèmes avec vous. Et quand vous partez en vacances, vous n'avez plus de congés payés, à moins que la structure soit assez importante pour tourner sans votre présence. Vous voyez, mais on est loin de là quand on crée une affaire. Hein. Donc, votre témoignage est surtout intéressant pour dire, OK, quand on voit que ça ne va pas, il vaut mieux dire au bon moment, stop, et retourner quand on peu, et vous êtes un bon élément qui est recherché, donc les bons éléments, vous me direz, est-ce qu'ils trouvent du travail ou pas?
Oui, ben bien sûr, quand on a un bon élément, on trouve du travail, là, c'est... ça, il n'y a pas de souci.
Oui, donc il faut être un bon élément, et le travail, on le trouve toujours. Hein. Mais aujourd'hui...
Oui, le travail, il y en a, faut le chercher, c'est tout.
Non, parce qu'on parle toujours du chômage, du problème, des machins, trucs, mais je crois, à travers les problèmes de société, beaucoup de gens se complaisent aussi dans des situations un peu extrême.
Ouais,
hein.
Je pense qu'on fait un peu trop d'assistanat là, en France quoi, en ce moment-là.
Ouais,
c'est pour assister les gens, c'est pas ça qui va rétablir la situation. Quoi.
Donc, au fond...
C'est mon avis personnel.
Non, mais vous avez raison, moi je le vois bien. À fond, à force de faire de l'assistanat, on ne donne plus la volonté aux gens de dire on cherche une solution, on cherche un travail. Ils préfèrent comme ça se la couler douce hein, et en paix.
Bah oui. Je pense que c'est un dû, quoi. Donc,
Et croire que c'est un dû, comme vous dites.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est très important, votre témoignage, car vous étiez un excellent collaborateur d'entreprise, vous êtes dans le domaine technique, vous étiez un créateur, mais qui n'était peut-être pas bien conseillé. Vous pensez que les conseils n'étaient pas bons quand vous êtes lancé?
Oui, moi, je pense, surtout dans mon cas, j'ai pris un cabinet d'avocats qui était un peu trop gros, où je pense être plus un numéro qu'un client dedans. Donc... c'est pas les bons conseils, c'est pas forcément ce que je referais dans l'avenir. vaut mieux se mettre avec un plus petit comptable où le contact reste humain. Quoi, hein. Enfin,
il faut surtout des gens qui vivent l'expérience dans les tripes et qui ont cette empathie de se mettre à la place de l'autre. C'est ce qui manque beaucoup dans les conseils, d'ailleurs, où qu'on veut. Dans toutes les structures, d'ailleurs, je constate combien on traite en surface les problèmes et non en profondeur. Il y a un manque d'âme et les gens n'ont plus de l'âme. Nous sommes une société de consommation à tout point de vue et je le vois aussi dans la qualité des services. Voilà.
C'est ça, il n'y avait pas de gros services. Enfin, moi, j'étais surtout déçu par ça, quoi, par la manière du comptable et je m'attendais vraiment à autre chose, quoi.
Tout à fait. Mais maintenant, vous avez...
Vu le prix.
Vous avez une bonne expérience, hein, monsieur Joseph, hein?
Ouais.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, hein, avec grand plaisir, hein?
Mais moi aussi.
Allez.
Alors, pour terminer, Joseph, de cette expérience, quels conseils pouvez-vous en tirer pour nos auditeurs?
Ben, choisissez bien vos comptables, essayez de démarrer une entreprise avec un minimum de trésorerie quand même.
Oui.
Voilà.
Donc, deux conseils importants, hein, bien choisir les gens avec lesquels on travaille et puis effectivement commencer avec un peu d'argent. Bon, merci beaucoup, Joseph, pour votre témoignage.
C'est moi.
Et bon courage pour la suite. À bientôt sur Radio Crésus.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide.